France Culture.
Bonjour, le Book Club. J'exil est pour moi une fresque humaniste qui ouvre. Et je ressentis, dans la traversée des photographies et des témoignages forts, toute l'histoire vraie de notre monde, un peu comme un écho.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Troisième temps de cette série d'émissions où flotte le mot exil. Aujourd'hui, deux beaux livres revus, principalement dédiés à l'image, qui conjuguent le mot exil comme un verbe. La revue The Eyes confiait le temps d'un numéro, une carte blanche à l'auteur et photographe Sabil Goussoub. Il y réunit différents artistes dont le travail explore la représentation de l'exil et de la migration à travers des histoires intimes. Ici, l'exil sonne comme une condition, un état, une capacité à transformer son existence. Mais surtout, il est montré à travers une si grande multiplicité de moyens, de sources et de formes qu'on est tenu de considérer chaque histoire pour elle-même et dans sa grande singularité. Sabil Goussoub et l'une des artistes associées Olenka Carrasco sont les invités de votre book club. Vers 15h50, comme chaque mercredi, lecture jeunesse, Mathilde Wagman explore pour nous les publications à destination du jeune public et aujourd'hui c'est un roman photo qui a attiré son attention. En fin d'émission, on joue à chercher de la musique dans les livres, on est parti pour une heure, bienvenue à toutes et à tous. Dans le Book Club, bonjour Sabil Goussoub.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, vous êtes entre plein d'autres choses. Vous êtes romancier, vous aviez fait paraître le livre Beyrouth sur scène aux éditions Stock en 2022. Il avait eu le prix Goncourt des lycéens, c'est bien ça. Et vous êtes aussi photographe, et c'est à vous que la revue The Eyes a confié une carte blanche sur le thème de l'exil. On va en reparler tout à l'heure, soyez le bienvenu dans le Book Club.
Merci.
Bonjour Olenka Carrasco.
Bonjour.
Vous aussi, vous êtes pas mal de trucs en même temps. Beaucoup, beaucoup de choses. C'est ça qui fait la richesse de votre pratique. Mais on peut dire qu'elle emprunte autant cette pratique à l'écriture, au sens général, qu'à l'image. Vous avez aussi étudié les sciences humaines. Vous êtes aussi intéressée par la littérature. Et vous êtes l'une des artistes invitées par Sabil Goussoub dans ce numéro de la revue The Eyes. Et tout ça pour un livre qui s'appelle Patria et qui lui était publié aux éditions The Eyes. Et c'était en 2023. À peu près, tout est clair.
Tout est clair.
Tout le monde a les bonnes informations. On y va. Le titre de cette revue, c'est une façon de conjuguer le verbe j'exile, d'abord d'en faire un verbe et puis d'autre part de le faire à la première personne du singulier. Alors si vous voulez bien, en guise de portrait de lecteur, qui est toujours l'introduction qu'on fait au Book Club, des portraits de nos invités en tant que lecteur et lectrice, est-ce que vous voulez bien l'un et l'autre nous raconter comment le mot exil existe dans votre vie? Qu'est-ce que ça a comme résonance? Et comment est-ce que cette trajectoire-là ou ces trajectoires-là a peut-être rencontré des livres sur son chemin? Sabil Goussoub.
Alors, le mot « j'exile », c'est d'abord une histoire personnelle. C'est l'histoire de mes parents, qui sont des exilés de la guerre du Liban. Et quand je parle de la guerre du Liban, c'est celle de 75 à 91, qui a duré 15 ans. Ils sont partis en 75 et la guerre a éclaté. Enfin, ils sont partis deux mois avant. Et ils sont retrouvés à vivre à Paris. Et aujourd'hui, 50 ans plus tard, ils sont encore à Paris. Et dans mon dernier roman, Beyrouth sur scène, je reviens sur leur exil et sur ces 15 années qu'ils ont vécu loin de leurs proches et de leurs parents qui vivaient cette guerre-là. Donc, cet exil-là, je l'ai vécu à la maison. Ce que j'écris dans le livre, c'est que j'ai vécu à Paris, mais dès que je rentrais chez moi, j'avais l'impression d'être à Beyrouth, d'être au Liban.
Que vous ne connaissiez pas pour ne pas. Enfin, vous n'y étiez pas né.
Je n'y suis pas né, j'y suis allé à 3 ans à la fin de la guerre. D'accord. Et j'ai découvert mon premier visage de Beyrouth. C'est Beyrouth complètement détruite par ces 15 années de guerre. Et ensuite, on y allait tous les étés, parfois à Noël. Puis après, moi, je suis parti vivre au Liban. Je suis resté une dizaine d'années, puis je suis re-rentré à Paris. Donc l'exil, c'est l'histoire de ce pays-là aussi. L'histoire du Liban, c'est un pays d'exilés, c'est un pays où on part toujours pour ou y revenir ou ne plus jamais y revenir, mais c'est dans l'histoire, dans les gènes de ce pays.
Quand vous dites « je rentrais à la maison et je vivais en France, mais j'avais l'impression de retrouver le Liban », mais c'était un Liban d'exilés, vous diriez ça ? Ce serait ça la spécificité du Liban que vous viviez à Paris ?
C'est le Liban que mes parents ont quitté, c'est-à-dire que c'est un Liban d'avant-guerre. Quand on rentre dans l'appartement de mes parents jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune trace de guerre sur les murs, même dans les bibliothèques, il y a très peu de livres sur la guerre. Enfin, elle est pas présente. Ce qui est très différent d'une génération comme la mienne, j'ai 35 ans, on rentre chez nous, il y aura toujours une photo de la guerre. La guerre sera présente quelque part sur les murs ou dans la bibliothèque. En tout cas, il y aura un élément. Chez mes parents, c'est vraiment, on a l'impression, je compare ça à la petite maison dans la prairie, mais c'est un peu ça. C'est leur village qu'ils ont quitté au Liban, c'est les arbres, c'est les oliviers, c'est un Liban très pur.
Mais fantasmé, vous diriez, ou réel, mais laissé en arrière?
Réel, mais qui est resté bloqué dans les années 70.
Est-ce que ça existait aussi dans les récits qui vous étaient faits à ce moment-là? Est-ce que la question de l'exil et du départ existait d'une manière ou d'une autre? Ou ça aussi, c'était figé comme un avant?
Ils m'en ont jamais parlé. C'est comme s'ils avaient jamais été exilés. Oui. J'ai dû aller les interroger pour comprendre qu'ils étaient exilés, ou en tout cas pour qu'ils mettent ces mots-là. Tout à l'heure, on parlait du mot d'exil et d'exilé avec la responsable de la revue, et je lui disais que ce mot exilé, mes parents l'ont jamais employé. Et il a fallu que j'écrive un livre sur eux, que moi je l'écrive dans mon livre, pour qu'un jour mon père commence à se décrire comme exilé. Mais avant ça, il aurait jamais employé ce mot de toute sa vie pour se décrire.
Alors, à quel moment de votre vie, à quel âge et à quel moment de la sienne ce mot arrive dans ce cas-là et à la fois vous permet de parler d'eux et leur permet de parler d'eux-mêmes?
Quand je vis l'échec que mes parents ont vécu, c'est-à-dire que je vis 10 ans au Liban et finalement je quitte le Liban en me disant j'ai peur qu'une guerre éclate avec Israël, ce qui s'est passé, et je ne gagnais plus ma vie, j'arrivais plus à gagner ma vie au Liban, et donc je décide à l'âge de 27-28 ans de me dire ok, je retourne en France parce que voilà, à partir de maintenant j'ai envie de construire quelque chose qui va durer un petit peu, et j'ai plus envie de tout perdre comme des amis ont tout perdu à la guerre de juillet 2006, ou comme mes parents ont perdu leur rêve, tout simplement leur rêve 75. De exactement quand ils avaient 20 ans. Et donc ce mot exil, ce besoin d'aller les interroger, c'est à ce moment-là, c'est quand je rentre à Paris. Il y a le Covid à ce moment-là, mes parents commencent à vieillir, on avait tous peur que nos parents, qui sont un peu fragiles, mon père est diabétique, etc., y passent. Et je ne sais pas pourquoi il y a eu un besoin d'aller poser une question très bête à mon père, qui finalement fait le début du livre, qui est « Comment t'es arrivé à Paris ?»
Mais cette question, elle a été longue à être posée.
Elle a été longue à être posée, il ne voulait pas y répondre, il m'envoyait balader très souvent, jusqu'au jour où il y a une relation de confiance, en fait, je crois, qui se crée. Il comprend que je voulais faire quelque chose. C'était pas vraiment c'était son fils qui venait l'interroger. Et en même temps, j'avais un petit micro que je lui branchais. Donc, il y avait quand même, j'ai instauré une distance pour quand même lui permettre de parler, de raconter des choses. Et à partir de là, voilà, ils ont commencé à raconter, et mon père et ma mère, leur exil, leur souffrance et la guerre, en fait. Cette guerre dont ils m'avaient jamais parlé toute leur vie. Tout d'un coup, elle était à chaque coin de phrase.
Et alors, vous dites qu'ils vous ont raconté une guerre, mais qu'ils ont fui, c'est-à-dire qu'ils vous l'ont raconté là aussi du point de vue de l'exil, d'une certaine manière?
Ils ont raconté ce que c'était de vivre une guerre de loin, sachant qu'ils y retournaient souvent, et que toute leur famille y était. Leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, et certains de leurs frères et sœurs ont même participé à cette guerre-là, les armes à la main. Et donc, ils ont raconté leur rapport qu'ils avaient à cette guerre-là, à leur exil. Et moi, ça m'intéressait beaucoup, car j'avais beaucoup lu de récits sur la guerre du Liban, mais très peu de récits sur la guerre du Liban vue de loin. Comment on vit une guerre de loin? Et c'est ce qui m'intéressait aussi de savoir. C'était quoi leur ressenti? Comment ils avaient vécu ça?
D'autant que vous décidiez vous-même de vous installer à Paris et donc vous vous apprêtiez à vivre beaucoup de choses de loin vis-à-vis du Liban.
Exactement, ce que je n'avais pas prévu. Bon, pressenti, mais pas prévu. Et finalement, cette guerre de loin, j'ai compris ce que c'était. Là, il y a quelques mois. Enfin, j'ai compris les deux parce que j'y suis allé en plein milieu après. Mais au début, j'ai compris ce que c'était de voir ses proches. En fait, c'est étrangement presque pire.
De le vivre de loin, vous voulez dire?
C'est-à-dire que si on oublie, c'est dur à oublier, mais la peur des bombes et des bombardements, on imagine beaucoup de loin. On se fait beaucoup plus de... C'est très curieux, c'est qu'on a presque plus peur quand on est loin que quand on y est. Parce qu'on tout est imaginaire. Il y a rien de réel, rien de concret. On n'a pas de réflexe. On a juste peur. Et en plus, maintenant, avec les notifications, c'est bien pire. Enfin, c'est bien pire. Je sais pas si c'est pire ou pas qu'à leur époque, en 75-90, où finalement, t'avais les journaux papier, puis t'avais le 20h. Et voilà, c'est comme ça qu'on recevait à peu près l'actualité de temps en temps au téléphone quand on arrivait à appeler. Et maintenant, les notifications, toutes les deux secondes, on sait qu'une bombe est tombée là, est tombée là, est tombée là. Ça s'arrête jamais. On est scotché à notre téléphone. Et faut essayer d'ailleurs de réapprendre à vivre normalement dans le pays où on est quand on est loin. Et ne pas être scotché à cette réalité qui n'est pas la nôtre, curieusement, parce qu'on vit pas sous les bombes, mais qui est quand même celle de nos proches, donc qui est un peu la nôtre. Donc voilà, c'est un...
Et comment la paix du pays où vous vivez devient toute relative, alors que c'est une paix réelle et concrète, parce que la guerre du pays dont vous êtes loin, elle est réelle et elle affecte d'une certaine manière la vie que vous avez. L'idée, c'est d'essayer de mêler votre rapport à la lecture, à l'histoire que vous venez de raconter. Sabine Goussou, du reste, c'est aussi ce que vous faites pour la revue D-Rice, c'est-à-dire que dans ce que vous proposez, dans ce que vous exposez presque, dans cette espèce de mini-exposition qu'est le chapitre qui vous est consacré, bah, y a des livres, il y a vos lectures. Ça tient quoi comme place dans votre expérience de l'exil, la rencontre avec les livres?
C'est à différentes périodes. Je pense que quand je suis jeune, quand j'avais 17-18 ans, les livres, tout autant que le cinéma et la photographie, C'était une façon de comprendre cet exil-là, de comprendre la guerre du Liban. C'était la première porte pour rentrer dans cette histoire-là. Pour le coup, au Liban, on ne raconte pas l'histoire du Liban ni l'histoire de la guerre. Il n'y a pas d'histoire officielle racontée. Et le seul moyen d'avoir accès à ces années-là, à l'histoire du Liban et encore plus aux années de guerre, c'est de se plonger dans les livres et les romans.
Ce que vous avez fait ?
Ce que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai découvert cette guerre-là, parce que mes parents n'en parlaient pas, la famille non plus, et j'avais pas un livre d'histoire sur lequel je pouvais me plonger. Mmh. Donc forcément, c'était ou des livres photos avec des images de la guerre. Je pense à un photographe, Fouad El Khouli, par exemple. J'ai vraiment baigné dans ces images quand j'étais jeune. C'était mes premières images de guerre au Liban. Et des romans, de très nombreux romans qui ont été écrits, dont Etel Radnan, que je cite dans le livre, qui avait écrit un roman qui s'appelle Sept Marie Rose, qui est, on suit une femme pendant la guerre civile au Liban, et c'était, je pense, un des premiers livres que j'ai dû lire sur la guerre du Liban, d'ailleurs.
C'est un texte dingue qui est reparu il n'y a pas très longtemps. Exactement. Et que j'invite vraiment nos auditeurs et auditrices à lire ou relire et ou à écouter l'émission qu'on y avait consacrée. On a décidé de, voilà, pour nourrir ce portrait de lecteur, de faire entendre un des textes que vous mentionnez dans le livre « J'exile ».
Beyrouth n'existe plus. Beyrouth représente un cas unique. Elle n'existe plus et n'existera plus. Je veux dire la Beyrouth que j'ai connue. Elle a été détruite et ne sera pas reconstruite selon ses anciens modèles. Donc quand j'y retourne, je cherche la rue où je suis née, les endroits où j'avais l'habitude d'aller, sachant trop bien que je ne les retrouverai pas. C'est comme si quand je suis là-bas, je n'y étais pas, et des gens ont perdu la tête, pour moins que cela. L'exil n'est plus le triste privilège de quelques rares individus. C'est devenu le synonyme de la condition humaine, mais avec une légère différence. Certains d'entre nous sont mangés par cette maladie de façon évidente et définitive, alors que tous les autres ne sont pas encore conscients de ce dont ils souffrent déjà. Nous sommes, nous, les contemporains de cette époque, tous très proches les uns des autres, mais bien rares sont ceux qui partagent ce savoir.
Ça me paraît un monde révolu, il n'est pas là, mais je peux en parler. Mais c'est un effort d'en parler, il est parti, mais il n'est pas oublié. Mais c'est un monde, je ne me souviens peut-être pas de chaque détail, mais sa nostalgie, son poids, mais très présent. C'est presque un poids physique. Non, c'est un poids lourd, mais pas douloureux. It's heavy. Je le sens dans mon corps, il me fait m'asseoir. Comme dans la poésie, les soirs d'automne, vous voyez. C'est un automne, c'est... L'hiver est derrière, vous voyez, c'est parti. Il y a aussi un questionnement. Qu'est-ce que c'était que ce monde ?
C'est toujours un privilège d'entendre la voix de cette autrice, romancière, poétesse, peintre Etel Adnan. Ici, c'est une archive en 2017 sur Culture. Elle était au micro d'Alain Kruger. Sabine Goussoub, ça fait partie des autrices que vous citez dans ce parcours de lecteur lié à l'exil. L'extrait de texte, c'est celui d'un livre qui s'appelle Voyage, guerre, exil, paru en 2020. Qu'est-ce qui vous intéresse ou qu'est-ce qui vous touche dans les mots d'Etel Adnan ?
Elle va à l'essentiel en très peu de mots. Il y a vraiment une simplicité des phrases, elle dit ce qu'on a envie de dire, elle écrit comme elle parle, il y a quelque chose de, elle va à l'essentiel, j'aurais pu écrire, je ressens exactement tout ce qu'elle a dit avec la dernière guerre qui a eu lieu au Liban. Elle a une justesse des mots qui est assez forte et qui d'ailleurs est toujours en lien d'une certaine manière aussi à ses tableaux, à ses lithographies. Je sais qu'elle parle du poids là, elle a une série de tableaux qui s'appelle Le poids du monde, qui représente vraiment ce poids de l'exil dont elle parle, avec des cercles comme ça, on a l'impression qu'ils pèsent très lourd dans le tableau. Donc, non, j'ai beaucoup appris d'Etel Adnan. On a beaucoup appris d'Etel Adnan. On est beaucoup d'artistes, d'ailleurs pas que libanais, hein, du monde entier maintenant, à se référer à ses mots, à ses propos, à ce qu'elle a dit. Je pense qu'elle a atteint une certaine forme de sagesse au bout d'un moment, et sans être dans la naïveté, sans être dans le... dans quelque chose non plus de christique où elle ferait des messages subliminaux comme ça de beauté et d'amour. Non, elle est très juste. Elle oublie pas ce qu'elle a vécu, elle oublie pas cette histoire, elle oublie pas son exil, mais elle essaye d'en faire quelque chose de beau, elle essaye de garder l'espoir malgré tout. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle a essayé de garder cet espoir.
Et le rapport au beau, et le rapport à, en effet, d'ailleurs on l'entend là quand elle convoque les saisons, c'est vrai que ça pourrait paraître presque trop simple, et en fait quand elle le dit elle, ça prend une, en tout cas en rapport avec son expérience, ça prend une grande dimension. Et Talanane, on a dit, est-ce qu'il y a d'autres livres qui ont été importants pour vous, parce que ça vous aurait permis de comprendre des choses, parce que ça vous aurait peut-être tendu un miroir, ou juste, voilà, qui ont été importants dans votre parcours de lecteur?
Sur des moments... Pour parler de l'année dernière, il y a eu cette guerre au Liban et enfin ce qui s'est passé après le 7 octobre et l'attaque du Hamas en Israël, la guerre en Palestine, le front qui s'ouvre au Liban, puis la guerre vraiment totale au Liban. J'avais beaucoup de mal à lire, moi qui lisais beaucoup. J'arrivais pas à trouver du sens à la littérature, où j'arrivais plus à avoir le calme nécessaire pour lire. J'étais scotché aux journaux, je travaillais pour un journal aussi qui s'appelle L'Orient le Jour, et j'arrivais plus à trouver de sens du tout à ça. Et je sais qu'on est beaucoup d'amis qui sont poète,
de tout bord d'ailleurs.
Voilà, ouais. De tout bord. Ouais. Je crois qu'il y avait quelque chose où c'était plus possible. Ouais. Et j'ai réussi à re-rentrer dans les livres grâce à la poésie, je crois. J'ai découvert un poète grec que je ne connaissais pas, qui m'a beaucoup fait penser à un poète que j'adore, qui est turc, qui s'appelle Nazım Hikmet. Ouais. Et le poète grec, c'était Yanis Ritsos, ouais, que je mets dans les pages inspiration, ouais, et qui m'a fait énormément de bien. Je crois qu'aussi, j'arrivais pas à avoir le temps de patience pour lire un roman, pour le comprendre ou pour le suivre. Et la poésie, dans sa forme plus courte, me permettait de me plonger dans un texte et de comprendre ce que je lisais. Et on prend plaisir à relire 37 fois une poésie. C'est plus difficile de relire 37 fois un roman.
C'est plus long, en tout cas.
Exactement.
Il y a quelque chose, en effet, dans les pages de cette revue The Ice, qui est comme une sorte de mur d'inspiration, ou presque d'installation. On peut voir les choses comme ça. D'ailleurs, c'est le cas pour vous, mais la maquette donne l'impression que c'est presque le cas pour beaucoup des artistes que vous avez invités. Il y a quelque chose comme ça qui est offert. Est-ce que c'est aussi votre rapport à la lecture? Est-ce que vous avez comme ça, dans votre tête, une sorte de table des livres, table des lectures?
De livres différents, vous
voulez dire ? Ouais, dans votre tête ou concrètement chez vous, dans l'endroit où vous travaillez, est-ce qu'il y a comme ça une sorte de présence des livres ?
Il y en a beaucoup, et j'ai une bibliothèque où justement tout est présenté un peu comme dans la revue, étrangement. C'est-à-dire qu'on va trouver. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de livres à la verticale. Parfois, je mets des titres les uns à côté des autres, et en fait, ça raconte une phrase. Il y a quelque chose de la mosaïque. Oui, j'ai ce lien. Et c'est un lien visuel aussi. Avec le livre et les couvertures de livres et mélanger les livres photos et les romans et les poésies les uns avec les autres et passer de l'un à l'autre. Oui, il y a quelque chose de...
Exactement ce que vous faites là, en fait.
Exactement.
Vous avez donc invité plein d'artistes dans cette revue The Ice, et parmi lesquels vous, Olenka Carrasco. Peut-être première partie de cette émission et même question, quel est votre rapport intime à l'exil, ou comment ce mot existe dans votre parcours, et comment est-ce qu'on peut mettre les livres ou la lecture en rapport avec tout ça?
Mais c'est drôle, quand j'écoutais sa vie parler de comment ses parents ils avaient un rapport avec ces mots-là, parce que c'est exactement, je pense, le même rapport que j'ai eu jusqu'à 2020, parce que j'ai quitté mon pays en 2003, ça veut dire...
Le Venezuela,
oui. J'ai quitté mon pays, et quand je suis sortie de Venezuela, c'est une époque où le Venezuela ne produisait pas la même quantité de migrants qu'il produit maintenant. Venezuela, c'est pas un pays qui a été historiquement un pays qui générait de la migration. C'était plutôt un pays qui hébergeait des migrants, qui hébergeait des personnes qui venaient, soit en fuyant la Deuxième Guerre mondiale. C'est comme ça qu'on a beaucoup d'Espagnols, d'Italiens, des Portugais qui se sont installés au Venezuela aussi. On appelait ça la deuxième conquista, quoi, parce qu'ils venaient après dans des bateaux, etc., en fuyant la guerre. Et du coup, on a une migration assez importante aussi de peuples latino-américains qui se sont installés au Venezuela à une époque, avec la situation très rude qui se vivait en Colombie à une époque. Pas mal de personnes qui venaient du Pérou, d'Équateur. Et du coup, c'était un pays qui, normalement, était très riche. Et c'était le pays où on se permettait de dire, ben, on accueille des migrants. Mais à partir de nos ports, là, ça fait 10 ans, la question de la migration explose. Et on a produit, je pense, l'exode le plus grand de l'histoire dans un pays qui, formellement, il n'est pas en guerre. Donc, il y a plus de 7 millions de Vénézuéliens qui ont quitté les territoires. mais la vitesse dans laquelle on a dû apprendre ces mots, elle est incroyable. Ça veut dire qu'on n'a même pas eu le temps d'assimiler déjà les mots d'exil parce qu'ils n'existaient pas dans notre histoire comme peuple. Donc, dans mon cas particulier, j'ai quitté le Venezuela en 2003. Il avait déjà une situation assez tendue dans le pays, la situation politique. Mais j'ai quitté le pays pour continuer mes études et pour partir dans le monde. Je suis, je pense, la première membre de ma famille qui quitte le Venezuela par choix, parce que je voulais juste partir dans le monde. J'ai fait une carrière, ma maîtrise et en lettres. J'ai fait des études de littérature au pays. Et j'étais toujours passionnée par la question de ce voyage. Et donc, je me sentais qu'il était là un très beau mot en espagnol, que c'est le mot vagabundo, que ce n'est pas les vagabonds. Les vagabundos, c'est la personne qui se dédie à errer par le monde. Mmh. Et là, je me sentais complètement identifiée avec ces mots-là. Et du coup, il n'a pas l'exil dans toute cette question-là.
Très différent, bien sûr,
parce que ça veut dire, moi, je pars parce que je veux, je rentre quand je veux. Mmh. Et en fait, jusqu'à l'année 2015, mon rapport avec mon pays était comme ça. Je suis partie en 2003, je rentre quand je veux. Si je veux venir deux fois par an, je viens. Si je viens une fois par an, deux fois, bon, etc.
Et même s'il y a manque, c'est pas un manque qui est lié au côté définitif du mot exil.
Non, parce que moi, j'ai passé, après toutes les années, depuis que je suis arrivée en Europe, en 2003, que je suis arrivée par Espagne, j'ai passé tout mon temps en Europe, ça m'a permis qu'à voyager. J'ai fait toujours de longs voyages, j'ai parti un an en voyage avec sac à dos, j'ai fait beaucoup de longs voyages, ça m'intéresse beaucoup. En fait, une de références littéraires que je peux avoir pour le mot maintenant exil, c'est j'ai grandi avec les poèmes des Cavafis, toujours dans ma tête, Ithac. Les voyages doivent être toujours longs et du coup, tu veux toujours être dans l'aventure. Donc ça, pour moi, c'était la description de ma vie comme migrant. Donc à partir de 2015, que mes voyages à mon pays, ils s'arrêtent parce que la situation, elle se complique. Là, je commence à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que mon rapport, ça veut dire que je n'ai plus les choix. Je pense que dans les mots exil, il faut aussi... c'est important qu'on rappelle que très possiblement, ce sont des personnes qui n'ont plus les choix de revenir. Et c'est là, quand tu n'as plus les choix dans
ta
vie...
Ni dans un sens, ni dans l'autre,
oui,
au final.
Tu ne peux pas choisir. Donc, pour moi, il y a déjà quelque chose d'une imposition. Donc, en 2015, je commence à les sentir, mais les pires explosent pour moi dans ma tête en 2020, quand mon père est mort, et je ne peux pas retourner. Et là, je ne peux pas faire. Je ne peux pas suivre l'enterrement. Je puis suivre l'enterrement de mon père via WhatsApp. On les voit bien dans les livres et tout ça. Mais je n'étais pas des corps présents. C'était pas ma décision. Je ne pouvais pas décider. Et ces jours-là, les jours que j'ai découvert ces morts-là, j'ai commencé obsessivement à compter les kilomètres qui me séparent de mon pays. Parce que c'est la première fois que je me suis dit, je suis en exil. Avant, ces mots, ils ne me représentaient pas. Et du coup, j'ai commencé à regarder autour de moi et je me suis dit, ah, on produit ça maintenant. Parce que Venezuela, c'est mon pays qui produit ça maintenant. C'est ce système qui s'est instauré dans mon pays, ce système politique répressor qui fait que les gens ils doivent fuir de son pays, qui produit une situation d'exil dans son peuple qui n'a pas choisi. Parce qu'au Venezuela, on n'a pas choisi tous de partir. Ce n'était pas mon histoire.
Oui, et il y a quelque chose qui, en plus, vient se conjuguer. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que vous racontez ça, vous aussi, Sabine Goussou, que vous mentionnez la pandémie Covid. Et il y a quand même quelque chose qui vient comme s'accentuer de 2020, la pandémie Covid, la restriction de la circulation et la mort de beaucoup de parents qui fait que, d'un seul coup, toutes ces situations-là, elles deviennent très, très, très tendues. Je vous adresse la même question, Olenka Carrasco. Dans ce parcours que vous racontez là très rapidement, bien sûr, quelle est la place pour les livres? Donc, vous avez cité des poèmes, vous avez mentionné voilà, cet imaginaire aussi d'Ithac et du long voyage perpétuel. Dans un premier temps, c'est Ulysse. Donc c'est... Bien sûr, il y a un peu d'exil chez Ulysse, mais il y a aussi beaucoup de voyages. Qu'est-ce qui vous accompagne ensuite comme livre?
Après, quand j'ai commencé ces projets, c'est la mort de mon père qui me pousse à travailler sur la question de mon rapport avec mon pays. Et comme disait Sabine, c'est la création, comment créer des liens avec ces pays quand tu es vraiment en exil. Et donc, c'est dans ce moment-là, ça m'arrivait certainement la même chose. La question de la lecture, c'était complexe parce que je vivais déjà dans un deuil. Donc, toute la poésie, toutes les choses qui étaient autour de moi, je pense qu'elles ne tournaient pas autour de la compréhension de l'exil. C'était plutôt la compréhension de ces deuils que je devais surmonter. Mais à la suite de ça, quand je me plonge à travailler sur Patria, c'est rarement, en parlant de l'exil, les fois où j'ai plus lu des livres de mon pays et sur mon pays.
Ah oui.
Et qui n'avait rien à voir avec les récits de l'exil. Mmh. C'était plutôt me plonger sur la question politique, économique. J'ai lu pas mal de livres et des rapports qui sont en lien avec la sociologie. C'est un livre, finalement, mon travail, il se verse un peu sur la question politique de qu'est-ce qui se passe au Venezuela, qu'est-ce qui produit Venezuela maintenant. Et donc, rarement, j'étais plus connectée avec les choses qui se faisaient au Venezuela. Mais ensuite, il avait des livres, comme il est décrit sa vie, là, quand vous allez à mon atelier, vous savez, mes livres que je dois lire parce que je suis dans un projet, c'est des piles comme ça. Et du coup, vous savez, des totems, des livres que je tourne, que là, que parfois ils tombent. Et donc, dans toutes mes piles de livres, il avait toute une quantité de livres où il y a Béraud sur scène, parce que c'est quelqu'un qui rapidement, quand j'ai raconté le résumé de mon livre, il m'a dit, tu n'as pas lu Béraud sur scène, parce que là, c'est la même chose au livre. Et du coup, je suis allée en courant à le prendre. Et du coup, il faisait partie de ces livres-là. Et bizarrement, j'avais jamais des livres qui parlaient d'un exil des Vénézuéliens. Parce que comme c'est un phénomène qui s'est produit il y a 10 ans,
peu de choses encore documenté. Pouvaient s'écrire, ouais.
Non, c'est pas documenté. Donc tous les livres que j'ai lisés autour de l'exil, autour de cette question-là, ils venaient d'autres pays. Et du coup, c'était intéressant pour moi de trouver ces miroirs. Par exemple, un livre qui est très important pour moi, c'est Alexievitch, La guerre, elle n'a pas un visage de femme. Et ça ne parle pas de l'exil. Et oui, parce que ce sont des femmes qui sont dans une espèce de pèlerination sanguinolente, parce qu'ils sont au milieu d'une guerre. Mais comment on partage ces récits de voyage? Vous voyez, il y a toujours la question des voyages pour moi.
Oui, et aussi de communauté dans ce que vous racontez, Olenka oui. Carrasco, c'est de considérer que, et d'une certaine manière, c'est aussi ce que dit le texte d'Etel Adnan que vous choisissez, Sabil Goussoub, c'est que l'exil est une condition du contemporain. C'est ça qui est à la fois, elle dit, ce n'est plus le privilège, le triste privilège de certains, mais c'est une condition du contemporain. Et dans ce que vous racontez, c'est pouvoir trouver une sorte de faire communauté avec des exils qui ne sont pas des exils qui sont tout à fait pareils aux vôtres, ni géographiquement, ni chronologiquement, parce que vous avez trouvé des similitudes dans des exils qui avaient eu lieu 30 ans auparavant, 40 ans auparavant, d'une certaine manière. Je veux juste pointer ce que vous dites, c'est-à-dire que beaucoup de vos lectures se sont tournées vers le Venezuela. Au final, dans cette série d'émissions qu'on fait sur le rapport entre l'exil et la littérature, on se rend compte que ce soit avec l'Iran, que ce soit hier avec la Guinée ou avec la Tunisie, l'exil en littérature devient aussi le moment de raconter le pays du là-bas. Mmh. De beaucoup raconter le pays. Et finalement, c'est aussi un endroit de récit, l'endroit de l'éloignement.
Oui, mais complètement. Mais complètement, parce qu'on crée un autre lieu. J'ai participé dans une autre mission. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question qui était très intéressante. Il m'a dit, il est où Venezuela? Et du coup, ça m'a laissé. Et j'ai dit, mais vous savez quoi? Je sais, c'est dans son espace de ma mémoire. Donc, on crée, quand on est dans l'exil, je pense que les pays se transforment. Ils sont pas, je suis obsédée par les cartes. Mais je suis tellement obsédée par les cartes, parce que mon pays, il est plus dans la carte. Il est dans une carte qui est bidimensionnelle. C'est plus la même chose. Donc, c'est un endroit où j'assiste, journalièrement. Ça veut dire, j'y vais. Je sais que j'y vais. Mais c'est un espace de mémoire. Ça n'a rien à voir avec un lieu physique. Du coup, comment on peut se construire des espaces comme ça? C'est à travers les récits. C'est pour ça que je me tourne vers des livres comme Alexievitch, ou même la façon comme sa vie est écrite, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de te raconte quelque chose. Parce que pour moi, l'exil, c'est quelque chose qu'on raconte. On avait soin de l'oralité. Et on avait soin de livres qui nous racontent comme ça. C'est pas un roman. On peut pas romancer l'exil. Je trouve que...
De toute façon, c'est ça qui apparaît très fort, je trouve, dans le numéro de la revue The Ice et les artistes que vous avez choisis, Sabil Goussoub, c'est que même quand ce sont des images, c'est une écriture. Enfin, il y a quelque chose qui se raconte finalement dans les artistes, je trouve, que vous avez choisi.
Alors je les ai pas choisis seuls, je veux quand même le dire, avec les responsables de la revue et aussi avec Taous Damani. C'est vraiment un dialogue qu'on a eu autour de différentes écritures photographiques qui viennent un peu des quatre coins du monde. C'était un peu ça la règle, c'est qu'on essaye d'aller voir. Enfin, moi, j'avais envie d'aller voir ailleurs, très très personnellement. Je sortais de Beyrouth sur scène et de mon histoire, et j'en pouvais plus, et de l'histoire de mes parents et de la mienne. Et j'en avais marre de répéter ça. Et j'avais besoin de voir d'autres écritures, d'autres gens qui les racontent cet exil-là, parce que ça fait aussi du bien de voir que ça existe ailleurs. On est vite enfermé dans nos histoires. Peut-être toi, le Venezuela, moi, le Liban, et on reste cloisonné dedans. Et on a besoin de sortir, d'aller, quoi, d'ouvrir la fenêtre. Et dans ces écritures-là, il y a vraiment des des artistes qui datent d'il y a 40-50 ans et des écritures beaucoup plus modernes, beaucoup plus contemporaines, où l'écrit est toujours un peu là. On travaille beaucoup avec l'archive, les archives de famille. Donc forcément, ça vient à travers des lettres, ça vient à travers des mots. Parfois, les images ne suffisent pas, on a besoin de mettre des mots. Parfois, c'est l'inverse. Enfin voilà, c'est des écritures qui se sentent très libres, mais finalement, peut-être... Il n'y a pas une grande joie à être exilé, je crois. Mais peut-être on peut trouver une certaine liberté dans le monde et de se dire qu'on peut vivre peut-être un peu partout dans le monde. C'est peut-être ça la liberté de l'exilé. Au bout d'un moment, on se détache de son propre pays d'origine, on se détache du pays où on arrive, disant qu'on ne va pas trouver notre place. Et voilà, on commence à être un peu malléable et on peut aller aux quatre coins du monde et se refaire, se reconstruire et juste être bien avec soi-même d'une certaine façon. Je sais plus pourquoi j'ai dit ça par rapport à quelqu'un.
Non, mais moi je vais rebondir immédiatement en prenant à la fois ce que vous venez de dire, Sabine Goussoub, et l'idée d'un pays mental dont vous parliez, Olenka Carrasco, pour donner la parole à Evelyne, auditrice. Elle vous interroge sur l'ubiquité comme une possible réponse à l'exil.
Bonjour le Book Club et bonjour Sabine Goussoub. Je suis très heureuse d'être auprès de vous aujourd'hui pour partager autour de votre magnifique revue « J'exile », qui est une fresque humaniste et pour moi qui ouvre. Et j'ai ressenti au travers de la traversée des photographies et des témoignages forts, un peu comme toute l'histoire vraie de notre monde et comme un écho. Et j'aurais une question pour vous. Concevoir l'ubiquité comme un habitacle ou un antre, ne serait-elle pas une forme de résilience ? Merci pour votre réponse.
Merci à vous, Evelyne, pour cette question. Concevoir l'ubiquité comme un habitacle ou un antre, est-ce que ce n'est pas le début d'une résilience ? Sabine Goussoub, vous pouvez vous appuyer sur les travaux des artistes que vous réunissez ou faire des tentatives pour répondre à Evelyne.
Tout dépend de ce qu'on fait du lieu d'origine. D'entendre Olenka, de regarder son projet, de l'entendre parler. Enfin, il y a une différence très concrète qui est très réelle entre nos deux pays. C'est que retourner au Venezuela coûte un certain prix. Retourner au Liban, ça coûte aussi cher, mais c'est quand même plus facile. Où se situe ton pays d'origine par rapport où tu habites? À quel point tu peux y retourner ou ne pas y retourner? À quel point il va falloir que tu fasses un deuil parce que c'est très difficile d'y retourner financièrement ou impossible si tu ne peux pas y retourner. Je pense à Mina Cavani qui est venue, qui était invitée chez vous, qui ne peut plus retourner en Iran. Mais il y a aussi des raisons financières. Qu'est-ce qu'on fait de ce pays? Je crois qu'on n'est peut-être pas dans la même situation. C'est assez touchant et émouvant de l'entendre, mais moi, pour le Liban, j'arrive toujours pas à faire le deuil, c'est-à-dire que j'ai toujours encore l'espoir de quelque chose. C'est encore très près de moi, je travaille encore beaucoup au Liban, et j'ai toujours l'espoir, non pas d'y retourner, mais c'est un lieu très concret, physique pour moi. C'est vraiment très physique, j'ai besoin d'y retourner, j'ai besoin de faire des choses là-bas, et j'ai besoin, et où je crois encore, qu'un jour, ça ira mieux. Et donc, je n'arrive pas à faire le deuil, donc le fait d'être ici ne me... Je suis pas dans la résilience, en tout cas.
Et est-ce que ce serait ça qui serait l'ubiquité décrite par Evelyne? C'est-à-dire que pour l'instant, en tout cas, vous êtes encore aux deux endroits en même temps?
Je saurais pas répondre. Je pourrais pas dire ni oui ni non.
Ok. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette idée de l'ubiquité, Olenka Carrasco? Ou peut-être aussi ce qu'elle dit de l'habitacle ou de l'antre? Est-ce que ça correspond, par exemple, au lieu mental dont vous parliez? Je ne sais pas si c'est tout à fait... Il y a un auteur que vous convoquez aussi, Sabine Goussoub, qui s'appelle Alexis Nous, et qui parle de la condition d'exilé, et qui parle des non-lieux de l'exil, de l'exilience. Est-ce que c'est à ça... Moi, je n'ai pas lu son texte, mais est-ce que c'est à ça qu'il pourrait renvoyer, par exemple?
Il y a deux choses qui sont intéressantes parce qu'elle mélange la question de l'ubiquité qui est chez nous. Maintenant, on est exilé aussi, mais il y a la question de l'ubiquité. C'est pas seulement la question de pouvoir bouger, comme disait Sabine, dans tous les pays où on veut, sauf les pays dans lesquels on est exilé. Mais c'est aussi qu'on est, on peut être potentiellement très présent dans ces pays qu'on a quitté. Par exemple, dans mon cas, la connexion qu'il y a avec mon pays, elle passe par via WhatsApp. Et du coup, je peux suivre des choses qui se passent au Venezuela en direct. Et c'est étrange parce que je suis les choses qui se passent au Venezuela en direct. Ça peut être une fête d'anniversaire, mais ça peut être aussi la dernière sémote où il y a beaucoup de morts et des choses qui sont horribles à regarder. Et je suis en train de regarder ça. Je vais m'attendre depuis mon atelier. Je peux voir la Tour Eiffel. Donc, tout dit, et il y a vraiment une question d'une scission particulière. Vraiment, on doit créer des habitacles. Ça, c'est sûr et certain. Parce que je suis en train de sentir que je suis dans un endroit avec la température de notre endroit, avec la réalité de notre endroit. Donc, est-ce que ça, ça s'est connecté avec la résilience? Je suis pas certaine, parce que je connecte là, à ce moment-là, les mots résilience beaucoup avec les mots résistance. Parce que je pense que nous, dans l'humanité, dans le monde qu'on vit maintenant, plus que faire de la résilience, on fait presque de la résistance. Tous les jours, s'élever et lutter et comprendre, je suis là et je vais être connecté avec cet espace-là. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que je sais pas si ça m'a aidé, la question des sentiers, que je pourrais être dans tous les pays, mais humainement, ce qui m'apporte à moi l'exil, c'est que j'ai construit mes rapports avec les lieux, géographiquement, au-delà d'un passeport. C'est-à-dire que moi, mes territoires, maintenant, ils vont au-delà de la zone géographique où je bouge. C'est mes liens avec les personnes qui se transforment en territoire. Du coup, c'est complexe, parce que ça veut dire que moi, en tant qu'exilée, j'ai vu les choses humaines plus complexement. Ça veut dire les séparations, les divorces, parce que les personnes qui sont autour de toi, ils deviennent ton territoire. Et j'ai commencé à dire depuis un moment, ma nationalité sera le lieu où je me sens heureuse. Et du coup, c'est vrai que ça peut contribuer à une forme de résilience, mais je ne sais pas si c'est le mot résilience ou le mot d'assimilation de l'information, de les lieux dont tu ne peux pas retourner ou tu retourneras un jour.
Ou de transformation, d'invention. Exactement. Il y a aussi ça que vous racontez Sabine Goussoub dans les artistes qui sont réunis dans la revue The Eye, c'est la manière de faire de l'exil sans nier la dureté, la violence, l'éloignement, le manque, etc., mais une capacité de transformation du réel, aussi la transformation qui est que tous ces gens font de l'art, en fait, aussi, ils produisent des formes, ils produisent des images, de la couleur, etc. Et bon, il me semble qu'il y a quelque chose qui se joue là, plus du côté de la métamorphose, donc de la vie, quoi. Il y a quelque chose, finalement... tout à l'heure, vous avez dit, on peut pas faire de la condition d'exilé une condition joyeuse, mais en tout cas, elle est très potentiellement très vivante.
Elle est très vivante et elle peut être, quand on entend Olenka, elle peut être perçue et vécue de manière assez et constructive et tournée vers l'avant et vers l'humain. Et c'est très beau ce qu'elle dit sur les humains qui recréent son territoire. Oui. En tout cas, les relations humaines qui te recréent un territoire. Mais c'est, je vais encore revenir sur ça, mais c'est vrai que c'est à quel point t'arrives à avancer. C'est impressionnant à quel point t'arrives à avancer parce que c'est comme si t'avais accepté. Je sais pas si c'est lié au deuil de ton père aussi, mais si tu avais accepté le deuil de ce pays-là, en tant que territoire.
Est-ce que c'est le cas pour vous?
Peut-être pas, mais c'est comme ça que je l'entends.
Oui, vraiment, parce que j'irai plus. Quand j'ai fini le premier chapitre de mon livre Patria, la phrase finale, c'est comprendre que ce deuil va au-delà de ton départ. Je suis orpheline des pères, passeport sans pays. Et donc, là, je me suis dit, c'est à partant de la mort de ses pères que je comprends que ça fait des années que je suis en train d'avoir un deuil et de faire un deuil, mais que je ne savais pas. Je ne savais pas, ça faisait partie de quelque chose. Et c'est très lié à la mémoire. Parce que pour moi, le deuil, c'est que petit à petit, j'oublie ce territoire. Petit à petit, je ne sais pas le localiser. Petit à petit, j'oublie des moments. Petit à petit, donc je dois m'accrocher à des choses pour continuer à me connecter avec ces liens, pour éviter l'oubli. Parce que moi, c'est la question que m'obsède le plus, c'est l'oubli. Et donc... à ce moment-là, oui, j'accepte qu'il existe ces deuils à faire, mais c'est pour le rendre vivante d'une autre façon.
Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui, d'emblée, dès le titre que vous choisissez pour ce livre, Olenka Carrasco, fait le lien entre la perte du père et la perte du pays, avec ce mot-là qui est patria et qui renvoie à la fois du côté du patriarche et de la patrie. On va écouter le début du texte.
Le 9 juin 2020, j'ai reçu un appel. De ce côté de l'Atlantique, il devait être 10 heures. « Il est mort », m'a-t-elle crié. Je l'ai trouvé mort. Je cligne des yeux. Je sens la pluie s'installer dans mes pupilles. Je regarde autour de moi. Je suis dans la maison d'un autre. Et ici, à des kilomètres de distance. Je vais devoir m'accrocher à cela, aux souvenirs des autres, aux expériences des autres. Pour faire le deuil, ton deuil. Au fond, dans la maison de l'enfance, nous nous ressemblons tous, n'est-ce pas? Je me lève au milieu de la nuit, je me transforme en pluie, je deviens une vieille baraque pleine de trous. J'entends la voix de la mère craquer. Je vois son visage à travers l'insignifiant écran de mon téléphone portable. En arrière-plan, tout était flou. Je ne pouvais distinguer que l'orange, si caractéristique de la terre, le vert luxuriant des plantes tropicales. Je suis à des millions de kilomètres de distance. Tout se fait tache. C'est comme si toutes les images de ma mémoire essayent de récupérer, s'effaçaient peu à peu.
Alors bien sûr, à la fois c'est ce que nous pouvons faire entendre à la radio, Olenka Carrasco, mais ça ne rend pas grâce à la richesse de votre travail, parce que chacune des phrases que vient de lire Jeanne Aléos, en fait, est prise dans un paysage visuel, avec des collages, avec un agencement sur la page. C'est un très beau livre que vous avez composé là. Il se termine, ce premier texte, sur l'idée de l'effacement, et il me semble que ça nous permet de parler d'une trop grande question pour le peu de temps qui nous reste, mais de comment est-ce qu'un exil géographique appelle tous les autres exils? Je pense à ce que disait Mina Cavani, c'est-à-dire que, en fait, c'est de l'exil d'avoir quitté l'Iran dont elle parle, mais au final, elle explore l'exil de elle par rapport à l'existence, elle par rapport au genre féminin, elle par rapport à la sexualité, elle par rapport à la passion amoureuse. En fait, la condition de l'exilé se révèle beaucoup plus vaste que le seul exil géographique, et il me semble que c'est un peu ce qu'on peut lire dans Patria.
Ah oui, exactement. Déjà, dans la pile des livres que j'ai évoqués tout à l'heure, il y a des livres qui sont en lien avec le Venezuela, où il y a toute la question politique du Venezuela, il y a des livres, des récits, il y a des romans, et il y a tout un tas de livres sur le féminisme, ou sur la question du genre, sur l'écoféminisme, parce que c'est les choses où je plonge à l'intérieur, là, maintenant. Et un des livres qui m'a accompagné le plus dans la construction de ces livres, c'est déjà un livre qui n'a rien à voir avec l'exil, mais qui parle d'une forme de s'échapper, d'une forme d'exil intérieur, qui s'appelle « Dans la forêt », de Young Highland. Et du coup, c'est un livre qui m'impressionnait parce que j'ai traversé un moment très fort intérieurement et j'ai compris que l'exil, il atteignait plus de choses ou de toute façon, il conditionnait plus. Il conditionnait d'une forme très rude ma situation dans le monde. Mmh. Et moi, avant, je ne l'avais pas compris.
Mais quoi,
comme
ça le souligne d'une certaine manière, ça oui, accentue les contrastes. Quoi.
Exactement, parce que là, ça commence par l'amour du père, mais ça m'arrive quand les gens ils s'approchent à Patria. On peut rentrer déjà par les deuils du père, que c'est déjà quelque chose qui est dur, vivre en deuil. On peut déjà aussi partir dans la question de, on était confinés, on ne pourrait pas rentrer à la maison. C'est déjà tout est dans un espace ben, clôturé. Tout peut rentrer par la question de l'exil géographique. Et du coup, oui, je pense qu'il y a beaucoup de situations qui relèvent un peu cette métaphore de qu'est-ce que c'est être exilé. Mm. Parce qu'en réalité, il faudrait vraiment définir déjà qu'est-ce que c'est ce mot. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose de l'exil intérieur aussi. Par exemple, moi, je me connecte beaucoup avec la question de moi géographiquement, comment je suis placée là et l'autre territoire est là. Mais il y a aussi beaucoup de solitudes intérieures qui comprennent la question des les titres du premier chapitre qui s'appelle « Maison prêtée pour un deuil », l'enfance. Et du coup, j'ai dit, tel que j'ai dit que Venezuela est un espace dans ma mémoire, mon enfance, elle est aussi un espace dans ma mémoire aussi.
Oui, et d'ailleurs, on parlait de faire communauté, mais je trouve que ça revient beaucoup quand vous parlez, Olenka Carrasco, et ce titre-là, et ce mot-là, pardon, ces mots-là, je vais y arriver, dans la maison de l'enfance, nous nous ressemblons tous, n'est-ce pas? Oui. Finalement, s'il y a un exil pour les personnes qui ont eu la chance de vivre à peu près jusqu'à nos âges, qui est commun, c'est celui-là. C'est le fait que plus le temps passe et plus on s'exile de quelque part. Sabel Goussoub, il me semble que c'est aussi quelque chose qui apparaît beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de photos de famille, d'albums de famille, un matériau que vous travaillez vous aussi par ailleurs.
Oui, la photo de famille et sur le mot exil, pour revenir dessus et pour revenir sur ce que vous disiez sur l'exilience, il y avait une difficulté dans ce numéro, enfin dès qu'on traite la question d'exil, qui peut se dire exilé? Ça c'est une vraie question, je pense que très peu de personnes sur Terre ne peuvent pas rentrer chez eux. Et pour moi, le vrai exilé, j'aime pas dire ce truc vrai, mais c'est-à-dire que la personne vraiment exilée, c'est celle comme Mina Cavani. Elle ne peut pas rentrer chez elle en Iran. C'est impossible. Moi, au Liban, je peux rentrer. Je peux peut-être pas y vivre pour des raisons économiques, de guerre, etc., mais je peux y rentrer. Toi, sur le Venezuela, je sais moins sur la situation personnelle, mais est-ce que tu peux ou pas traverser cette frontière-là et rentrer dans ton pays?
Donc, déjà, vous vous situez plus sur la question du retour que sur le non-choix de devoir partir.
Exactement.
Ouais. Exactement. Pour vous, l'exil, il est vraiment de ce côté-là.
Sur le non-choix de pouvoir rentrer. Oui,
ouais, c'est ça.
Oui, exactement.
C'est pas la question.
À partir
du moment
où on ne peut plus rentrer chez soi.
Ok, pour vous, c'est ça. Ok.
En tout cas, je pars de cette base-là, et en même temps, dans la revue, il fallait, comme vous dites là, quand tu parles de l'enfance ou quand on trouve le terme de exilience dans Alexinous, que j'ai découvert en effectuant des recherches pour la revue, l'idée, c'était aussi de parler de l'exil comme Ethel Arnan en parle, comme quelque chose qu'on pourrait tous comprendre. Mm. Et on peut tous comprendre ce mot d'exilé. Là, on parle de l'enfance, mais on peut parler aussi, par exemple, en France. Quand je faisais cette tournée du Goncourt des lycéens, il y a des gens qui me disaient voilà, j'ai quitté la Bretagne, j'ai quitté la Normandie pour aller à Paris. Mmh. Et déjà là, c'est aussi un exil d'une certaine façon. Donc l'idée, c'était de trouver des termes qui font que tout le monde peut se reconnaître dans cette idée d'exil, et en même temps quand même de définir au mieux ce mot d'exilé, qu'est-ce qui signifie réellement et concrètement pour des gens qui ont perdu ou qui ne peuvent plus retourner chez eux.
Oui, il y a quelque chose de la radicalité, en tout cas, alors peut-être sans faire de hiérarchie, mais on peut peut-être parler d'une nuance ou d'une palette, qui est aussi quelque chose qui apparaît beaucoup parce que les matières utilisées, les choses utilisées qu'on rencontre dans DI sont très plurielles. Mais peut-être qu'on peut s'intéresser un instant au médium photographique et aux images. Donc je dis qu'il y a la présence des albums de famille, des photos de famille, c'est aussi quelque chose que vous utilisez en les retravaillant d'une certaine manière. La fin du texte lu par Jeanne Aléos, c'était la crainte de l'effacement. Oui. Est-ce que reprendre ces photos, les travailler, est-ce que c'est lutter contre cette crainte-là, par exemple, Olenka Carrasco?
Oui, en fait, c'est parti qu'elle a lu, c'est particulier parce qu'elle parle des. J'ai deux statuts d'archives que j'utilise dans mon travail. Il y a une partie qui ce sont des archives de famille, un peu comme ce qui évoquait maintenant Sabine, ou comme il y a beaucoup dans la revue, d'autres artistes qui sont comme ça, ces archives de famille, où pour moi, il y a vraiment la connexion avec ces pays qui étaient dans le passé, parce que c'est les photos que j'ai pu récupérer de ces familles, mais il y a une autre quantité d'archives que j'appelle l'archive 2.0, parce que c'est l'archive que j'ai recevée via WhatsApp. Donc, là, quand je parle de ces questions, j'ai reçu la nouvelle et j'ai voyé derrière les patios de ma maison d'enfance, où il y a ces grands arbres très verts, l'orange de la terre. Et moi, la sidération de la nouvelle que je venais de recevoir, il m'a fait que tout s'est effacé pour moi dans ma tête, sauf ces couleurs-là. Sauf là. Et je me suis attachée à qu'est-ce que j'ai de souvenir de cette terre-là. Et comment je me connecte avec cette terre-là. Et ça part complètement par les sens. Il y a des choses qui sont liées vraiment à des choses que je ne peux pas reproduire. Ça, c'est quelque chose qui est important quand on parle de mots exilés. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus reproduire. Et là, je ne peux pas reproduire les bruits quand on parle de lui. Je ne peux pas reproduire les bruits de Venezuela, les guacamayas, le matin. Je ne peux pas. Je ne peux pas reproduire les saveurs de Venezuela. Oui, je peux, mais il faut qu'il y ait un magasin spécifique à dépenser 15 euros pour m'acheter une papaya. Et ce n'est pas le même goût. Elle est sous plastique. Sauf que chez moi, je pouvais la prendre. L'odeur, la terre mouillée de Venezuela, je ne peux pas. Donc, l'unique chose que j'avais qui pouvait m'attacher, c'était la question de la couleur. Du coup, j'ai reçu ces images-là et j'ai pratiqué un corrosif qui va détruire cette image-là. Ce sont des images qui sont monstrueuses, mais très belles. Parce que vous voyez une explosion de couleurs et vous voyez mon pays de la façon comme je pense qu'il éclate dans ma mémoire. Du coup, c'est deux façons de se connecter. Là, cette image, ce sont des images qui vont disparaître. Parce que pour moi, c'est exactement ce qui va se passer pour moi, dans ma mémoire. Et après, j'ai reçu 3 kilos d'archives photographiques dans le deuxième chapitre-là. Et ces archives-là, quand je les reçois, ils venaient dans son sac en plastique, parce qu'ils étaient portés par une dame qui ne sait pas conserver une archive photographique. Et là, quand je les vois, ils sont comme cette image-là. Ce sont des images qui sont elles-mêmes en train de se détruire seules. Parce que les procédés photographiques à l'époque, parce que le papier n'était pas bien, parce qu'il s'était collé dans son album et s'est collé entre eux. Elle s'est détruite elle-même.
Oui, mais là, de toute façon, la détérioration des images, elle est très présente dans les travaux artistiques qu'on peut rencontrer dans la revue d'IA. Et c'est très rare qu'elle soit intacte, qu'elle soit solide. Toutes les images qui sont à la fois dans votre livre Patria, mais qui sont aussi réunies dans The Ice, elles sont souvent altérées, elles sont souvent retravaillées, parfois elles sont brodées. Enfin, il y a une action sur ces images-là. Ça
parce que c'est important pour nous de se connecter avec la question que l'on est en train d'oublier. C'est notre façon d'apprendre cette mémoire, soit de la capturer, soit de vouloir la détruire. Et après, finalement, là, quand j'ai avancé dans mon travail, j'ai dit, mais j'ai plus besoin de détruire. L'État, il va le faire. Et c'est ça qui se passe avec nous, avec cette mémoire d'exilée.
Un dernier mot sur, justement, peut-être le statut des images, même si elles sont très différentes, et il ne s'agit pas de dire un truc définitif sur tous les artistes qu'on peut voir dans cette revue, mais peut-être sur le fait qu'elles ne sont jamais clean, les images qui sont reproduites dans The Eyes.
Oui, elles sont très peu clean, elles sont très... Quoique là, il y a des séries qui me reviennent qui sont peut-être un peu plus clean, mais il y a des écritures très différente. Le temps qui passe, c'est très beau. Et le temps qui passe sur ces images-là, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a aussi une temporalité qui est différente sur comment on traite l'exil qu'on a voulu appuyer, c'est-à-dire entre ceux qui racontent l'histoire de leurs parents exilés, leurs grands-parents exilés, ceux qui vivent l'exil au moment même. Ouais. Je pense à Taïsir Batniji, qui au-delà de l'exil, qui vit une guerre dans son pays dont il est exilé, qui voit sa maison de famille détruite et qui arrive à produire un livre au même moment, ce qui est très difficile en tant qu'artiste de réussir à produire au moment où tu vis le drame. Donc voilà, il y a différentes temporalités aussi de comment traiter cet exil-là.
Et je trouve que c'est très important aussi, à mon avis puissant, et puis ça va se penser, dans, si ce n'est déjà le cas, dans les années qui viennent, la manière de transformer ces questions très importantes de l'absence et de la présence. Je pense à un grand livre d'Abdelmayek Sayed qui s'appelle « La double absence ». Mais les nouvelles technologies bougent énormément ces frontières-là de qui est présent, comment ton corps existe dans un territoire ou dans un autre. Et il y a beaucoup de reproductions qui voilà, où le téléphone portable, la possibilité de se filmer, les conversations apparaissent. Bref, c'est très riche. Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et à cette heure-ci, le mercredi, l'heure est venue d'aller explorer le vaste continent de la littérature jeunesse avec vous, Mathilde Wagman. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
On a parlé de photographie dans l'émission de ce jour, même d'images de manière générale, et vous aussi. Vous voulez nous parler un petit peu photo aujourd'hui?
Oui Marie, la photographie dont la littérature jeunesse s'empare depuis de nombreuses années et qui a donné parmi les plus beaux livres qu'il m'ait été donné de lire dans ce domaine, je dois le dire. L'album dont je vous parle aujourd'hui est signé d'un duo d'auteurs qui a contribué à renouveler les formes de cette photolittérature en travaillant une technique originale qui consiste à raconter une histoire à partir de photographies de figurines mises en scène dans des décors miniatures. Pierre-Jacques Aubert imagine ces histoires, il en recherche les acteurs, si je puis dire, c'est-à-dire les figurines qu'il collectionne, il en construit les décors et c'est son épouse, la photographe australienne Jules Aubert, qui réalise les photos. Ils avaient ainsi signé en 2018 un magnifique album intitulé « Petit soldat » qui racontait à travers la mise en scène de soldats de plomb l'histoire d'un jeune combattant de la Première Guerre mondiale à la veille de son exécution pour désertion. Ils viennent de faire paraître aux éditions Seuil Jeunesse un nouvel opus mettant en scène là encore un petit soldat, mais pour lequel ils se sont cette fois associés à la conteuse et voyageuse Muriel Bloch en allant arpenter les décors bien réels d'un magasin de jouets situé à Kyoto au Japon.
Waouh, c'est trop beau tout ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'appelle cet album et qu'est-ce qu'il raconte?
Avec plaisir. Le livre s'appelle Le vaillant soldat de plomb au pays des yokai et nous propose une variation sur un fameux conte d'Andersen. Il en reprend la trame principale, mais lui fait rencontrer un imaginaire singulier, car en lieu et place du diable sorti de sa boîte qu'affrontait le jouet du conte danois, ce sont toute une série de yokai, ces créatures surnaturelles issues de la culture orale japonaise, avec lesquelles le soldat va être aux prises cette fois-ci. L'histoire commence par une belle matinée au cours de laquelle le pétillant monsieur Isekai, propriétaire d'un magasin d'antiquités à Kyoto, se rend dans un marché aux puces. C'est là que, égaré parmi tout un fatras d'objets, il découvre un petit soldat de plomb, vêtu comme un militaire britannique de l'époque napoléonienne et dont une jambe est cassée. Le trouvant d'une grande élégance, l'homme l'emmène dans son magasin et le place parmi les autres figurines, chats, dragons, bouddhas et poupées de toutes sortes qui peuplent ce lieu étonnant. Impressionné par cette foule, le petit soldat trouve un peu de réconfort dans la vision d'une superbe demoiselle de porcelaine japonaise dont un seul pied délicat dépasse du kimono. À la nuit tombée, les figurines, hostiles à la présence de cet étranger parmi eux, encerclent le militaire estropié. L'une d'entre elles provoque un vent tourbillonnant qui le fait tomber par la fenêtre. Le malheureux se retrouve à la rue. Deux enfants qui passent par là le ramassent et le placent sur un petit bateau de papier dans le caniveau pour que le jouet puisse aller naviguer. Au terme d'une longue traversée au cours de laquelle il aura croisé d'autres yokai, le soldat se fait avaler par un poisson goulu qui, par chance, finit dans la cuisine de monsieur Isekai. Le voici donc qui retrouve sa place dans la boutique aux côtés de sa bien-aimée demoiselle de porcelaine. Hélas, à la nuit tombée, le terrifiant et jaloux Kasa Obake, créature grotesque et clownesque, abat sa fureur sur eux en provoquant un feu qui les fait fondre tous les deux. Le lendemain matin, monsieur Isekai trouve à leur place un petit cœur de plomb au creux duquel est sertie une fleur de cristal, bijou que l'antiquaire offre pour finir à un couple de jeunes amoureux.
Ça s'appelle raconter une histoire avec talent, Mathilde. Bachmann. Et alors, qu'est-ce qui vous a enthousiasmé peut-être dans la forme de ce livre ?
D'abord, le génie du choix de ce décor, cet extraordinaire magasin d'antiquités de Kyoto. Les photographies de Jules Sauber, les cadrages, les couleurs saturées, les contrastes parviennent à en faire le terreau d'une histoire qui ouvre très très grand l'espace de l'imaginaire. Le choix des figurines, piochées parmi des jouets issus aussi bien d'un folklore traditionnel que de la culture pop contemporaine des mangas par exemple, est pour beaucoup dans le dynamisme de l'ensemble. Et puis il y a la pointe de malice que Muriel Bloch apporte au tout, comme dans ce passage où le soldat, arrivé dans cette boutique, se trouve soudain sous le regard menaçant des objets qui l'entourent, il se raidit et se dit « Il faut absolument me présenter à ce beau monde tel que je suis ». Droit dans ma botte. Dans la préface d'un ouvrage intitulé « 150 ans de photolittérature pour les enfants » paru il y a quelques années aux éditions Mémo, le chercheur Michel Defourny soulignait que pendant très longtemps, on avait pensé que la photo était inadaptée pour s'adresser aux enfants. On considérait à la fois qu'elle appauvrissait le réel en tentant de le reproduire et on la jugeait en même temps trop peu porteuse sur le plan de l'imaginaire, car trop réaliste. Ce qui m'a enthousiasmée dans cet album, c'est qu'il montre avec brio que la photographie peut, à partir du réel, être le support d'un onirisme absolument débridé. Le réel dépassant parfois la fiction, il se trouve que le magasin qui constitue le décor de cette histoire a été le lieu d'un incendie il y a quelques semaines. Les auteurs invitent via leur site à soutenir les propriétaires pour qu'ils puissent le reconstruire. Avis aux amateurs, on mettra le lien pour ce faire sur le site de la chronique.
Ouais, on rappelle le titre du livre ?
Ça s'appelle « Le vaillant soldat de plomb au pays des yokai ». C'est signé Pierre-Jacques et Jules Ober et Muriel Bloch aux éditions Seuil Jeunesse.
Merci beaucoup Mathilde Wagman. On vous réécoute lecture jeunesse sur franceculture.fr. Et à cette heure-ci, dans le Book Club, on cherche de la musique dans les livres pour un jeu qui s'appelle le grand jeu des pages musicales. On confie cette tâche à nos auditeurs et auditrices. Ils peuvent nous envoyer des passages, des livres dans lesquels ils trouvent des airs musicales via l'adresse mail lebookclub@radiofrance.com ou via le compte Instagram de l'émission. Et puis parfois, nous jouons nous-mêmes. Nous avons trouvé de la musique dans Beyrouth sur scène. Il y a souvent de la musique dans les histoires d'exil, c'est vrai. On en a peu parlé parce qu'on a pas mal parlé d'images. Mais donc, c'est avec un extrait de votre roman qu'on termine, Sabil Goussoub. Yala n'a pas le même rapport que moi au Liban, et ça m'a toujours surpris. Comment est-ce possible que je sois autant obsédée par ce pays et elle non ? Que je passe mon temps à fouiller et me renseigner sur l'histoire et les artistes de ce pays, à écrire constamment dessus, que j'y ai vécu plus de 7 ou 8 années, et qu'elle, l'idée d'y habiter ne lui ait jamais effleuré l'esprit. Elle se contente de rendre visite à la famille chaque été. Elle adore d'ailleurs ces rendez-vous familiaux où tout le monde se réunit et où elle peut faire son spectacle permanent. Elle aime que l'attention soit portée sur elle. Et si ce n'est pas le cas, elle devient très désagréable ou se renferme sur elle-même à tel point qu'un soir, je l'ai surprise cloîtrée dans les toilettes, une guitare dans les mains, à fredonner une version acoustique de la chanson « All Eyes on Me » de Tupac.
Big sight, new pain, oh God, big sight. Y'all know how this shit go.
You know, all eyes on me.
Motherfucker, roll up in the club and right. Shit.
All eyes on me. All eyes on me.
You know what?
I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player-hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the funk, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you steal down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally freed me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get cross later. The future's in my eyes. Cause all I want is cash and things. A 500 Benz wanting flashy brains. Bitches pursue me like a dream. Been known to disappear before your eyes. It's like a dope fiend. It seems my main thing was to be major paid. The game sharper than the motherfucking razor blade. Save money, bring bitches. Bitches bring lies. One nigga's getting jealous and money.
Merci beaucoup, Olenka Carrasco, d'avoir été avec nous pour évoquer notamment votre livre Patria, paru aux éditions The Eyes. Merci beaucoup, Sabil Goussouk, d'avoir été avec nous pour parler de votre participation et de votre co-commissariat à la revue The Eyes, intitulée J'exile. Au son aujourd'hui, c'était Noé Chaban à la réalisation, Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club. Jeanne Aléos, Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Cyril Marchand, Louise Hoth et Alexandra Lajbegovic, avec qui vous pouvez poursuivre la conversation sur le compte Instagram du Book Club.